Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, peut-on tenir une promesse écologique ? La COP21 a été une validation solennelle des alertes lancées depuis plus de 50 ans par la société civile. Extrait d'un article critique de l'écrivain et philosophe Dalibor Friou sur le sommet du mois de décembre dernier, qui a débouché sur l'accord de Paris, article intitulé « Bonne parole, mauvais acteur ». Même reproche qui émane de la part des institutions politiques les plus concernées par la question en France, Ségolène Royal qui, quelques mois avant l'événement, déclarait dans une interview donnée au Monde, je cite « J'ai l'impression que l'on remet chaque fois à l'année suivante les décisions à prendre ». La ministre de l'écologie, qui se disait à cette époque désireuse de changer de méthode et qui se trouve aujourd'hui à Oslo pour une visite de 4 jours consacrée au changement climatique. 8 mois après la signature des accords de Paris par 196 délégations, qu'en est-il des engagements pris, des mesures pour tenter de tenir par exemple la principale promesse, celle de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés? Qu'en est-il aussi de la préparation de cette COP22 au Maroc qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochain et dont l'objectif est de fixer les moyens de mise en œuvre de l'accord de Paris? Qu'en est-il encore de la volonté politique des États dans ce contexte d'épuisement des ressources naturelles de la Terre? Des questions qui posent en fait celle de la possibilité de tenir un engagement écologique quand ces accords permettent un droit de retrait, un désengagement sans justification ni réelle sanction, et quand ces mêmes engagements ne s'inscrivent pas toujours dans le calendrier politique ou économique des États concernés. Alors peut-on tenir une promesse écologique? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne Tézenas du Moncel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Parisien. Les auditeurs les plus fervents du Grain à Moudre d'été se souviennent sans doute de vous, puisque vous étiez venue toutes les semaines l'été dernier nous rendre compte des coulisses de la COP21. Un travail d'immersion dont vous allez nous parler plus en détail aujourd'hui dans cette émission. En face de vous, Pascal Canfin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député européen Europe Écologie Les Verts, ancien ministre délégué au développement de 2012 à 2014, et vous êtes à présent directeur général de l'ONG WWF France, le Fonds mondial pour la nature. Au téléphone, notre troisième invité, c'est Patrice Geoffron. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique, de l'énergie et des matières premières. Alors, la question qui se pose assez vite, en premier lieu, dans ces sommets consacrés au changement climatique, c'est celle du consensus à trouver. On a l'impression qu'une fois qu'un accord est signé, comme celui de Paris en décembre dernier, il faut presque ensuite trouver un accord pratique pour le mettre en œuvre. C'est d'ailleurs un peu ce qui va se passer à la COP22. Le philosophe Dalibor Friou, que je citais en début d'émission dans un de ses articles publiés, posait à ce titre la question: est-ce que les États sont délibérément hypocrites? Alors moi, je vais vous poser la question en d'autres termes. Est-ce que un accord sur le climat peut être mis en œuvre tel qu'il a été acté sur le papier? Pascal Canfin.
Moi, je pense qu'il peut être mis en œuvre comme il peut ne pas être mis en œuvre. Effectivement, vous le disiez dans l'introduction, l'accord de Paris n'est pas juridiquement contraignant. Donc ça veut dire qu'un État qui déciderait, si Donald Trump était élu, j'espère que ce ne sera pas le cas, dans quelques semaines aux États-Unis, de dire l'accord de Paris, jamais entendu parler, personne ne peut poursuivre les États-Unis en justice. Par contre, on n'a pas inventé Internet par contrainte. On n'est pas allé sur la Lune par contrainte. On n'est pas sorti de l'âge de fer par contrainte. On n'est pas rentré dans l'âge des fossiles par contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les grandes évolutions, révolutions de l'humanité dans son histoire n'ont jamais été faites par contrainte. Elles ont été faites parce que tout d'un coup, on s'est dit, mais ça, c'est une opportunité extraordinaire. Ça va résoudre nos problèmes. Ça va être une solution. Voilà. On va vivre mieux. Et l'enjeu écologique, qui est un enjeu de cette nature, c'est un enjeu de civilisation, quand on écoute ce que nous disent les scientifiques, eh bien, on le dépassera, on arrivera à résoudre cette équation, pas par la contrainte, même si les enjeux de contrainte juridique doivent faire partie du paysage, mais c'est pas ça le levier principal. C'est la capacité à se dire, on vivra mieux demain si on évite un chaos climatique. On créera plus d'emplois si on développe une agriculture de qualité qui ne détruit pas notre santé et les sols, etc. Et toutes ces outils, toutes ces technologies sont maintenant disponibles. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que une des raisons qui explique la différence entre l'échec de Copenhague en 2009 sur le climat et la réussite politique de Paris en décembre 2015, c'est que le coût des technologies décarbonées a considérablement diminué. Ce qui fait que, et je terminerai là-dessus, l'année dernière, 90% de toute l'électricité, de toutes les capacités nouvelles de production d'électricité dans le monde, qui ont donc été installés, eh bien, ont été installés sur la base d'énergies renouvelables, que ce soit de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, de la géothermie, peu importe, mais ce sont des énergies renouvelables. 90%. L'année d'avant, c'était 60%. L'année encore d'avant, c'était 50%. Ça veut dire que ce panier de solutions technologiques a mis des décennies à franchir 50%, et puis 3 ans à passer de 50 à 90%. Donc on voit bien qu'on est face à une accélération des solutions disponibles, mais il faut continuer à accélérer, sinon on risque de perdre la course contre la montre. On a encore eu il y a quelques minutes le record de température en juillet. 2015 était l'année la plus chaude, et on sait très bien qu'on va aujourd'hui encore dans le mur. On n'est pas encore en train de gagner, malheureusement, la course contre la montre, même si les solutions sont là.
Anne Tézenas du Moncel, sur cette question, sans parler encore de la contrainte dont on va développer ce point dans quelques instants, mais est-ce que les États qui s'accordent autour d'une promesse écologique, de plusieurs promesses écologiques, savent qu'ils vont la réaliser ou qu'ils ne vont pas pouvoir le faire ? Vous qui avez assisté aux coulisses de la COP21.
Je pense d'abord qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que cette règle, ce consensus, en fait, est une règle par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, les États ne sont jamais parvenus à un accord sur le mode de vote, de fonctionnement au sein de la COP. Donc en fait, c'est un fonctionnement par défaut. Et il a le mérite, en fait, ce fonctionnement par consensus, en fait, d'obliger à entendre absolument toutes les voix, quelle que soit la taille d'un pays. Et ça, c'est déjà un modèle tout à fait particulier. Ce que je trouve très intéressant par rapport à la COP21 et l'effet du Bourget, c'est que le cadre du Bourget à fixer quelque chose qui est de se dire on est à un point de bascule. Et en fait, il va falloir maintenant pousser pour que ce point de bascule politique devienne une réalité technologique, économique. Et ce qui a été très très fort pendant la COP21, et je trouve qu'à cet égard, moi j'ai souvent l'image d'un Airbus A380 pour parler de la stratégie de Laurent Fabius, Laurence Tubiana, c'est qu'ils ont pris un râteau extrêmement large pour faire venir dans le jeu les entreprises, les villes, les ONG, et qui est une façon de responsabiliser tout le monde. On sait qu'il n'y a pas de contraintes, on y reviendra. La logique d'adhésion dont parlait Pascal Canfin paraît absolument fondamentale, parce que ce dont parle Pascal Canfin, c'est l'envie de construire une autre façon de vivre, une autre façon de produire, indépendamment de la question climatique pure.
Patrice Geoffron, sur cette question, est-ce que les États, je vais vous reposer la question, mais en y ajoutant aussi le facteur économique, les États qui prennent part à ces sommets, au sommet de la COP21 dernièrement, n'ont pas les mêmes impératifs économiques? Comment est-ce que le consensus est possible, et est-ce que c'est les États qui prennent part se disent que la réalisation de cet accord, l'accord de Paris, est possible en le signant?
Alors, pour comprendre la difficulté de ce qui se joue, alors déjà il faut bien avoir à l'esprit que si on est à la COP21 et prochainement à la COP22, c'est qu'on tâtonne depuis pas mal d'années. Et ces difficultés, elles sont liées au fait que finalement on a derrière nous 2 siècles de création de richesses économiques basées sur une utilisation très intensive des énergies fossiles. Et il est assez singulier d'observer qu'à l'heure actuelle, si vous regardez probablement le ciel à Shanghai ou à Pékin, vous voyez à peu près la même chose que ce qu'on observait au 19e siècle à Londres. Et donc le moteur de la richesse est notamment très intensif en charbon. Et c'est très compliqué, et ça a déjà été dit, dans une course contre la montre, de modifier ce grand modèle, notamment lorsqu'entre en scène de grands pays très peuplés ou qui s'apprêtent à le devenir. C'est le cas de l'Inde ou c'est le cas de l'Afrique, qui émettent très très peu de CO2 par individu, hein, de l'ordre de 2 tonnes, c'est-à-dire 10 fois moins que certains des grands émetteurs dans l'OCDE, et de leur dire qu'il n'est plus temps d'utiliser ces énergies fossiles, qui sont une manière de créer de la richesse assez rapidement. Donc il faut trouver des mécanismes de coopération, et qui ont été très largement discutés dans l'enceinte de la COP21. Et puis il faut passer d'une espèce de logique, et celle qui prévalait dans les COP antérieurement, et notamment à Copenhague, où il était urgent d'attendre, à une logique où désormais il faut à la fois des mécanismes de coopération, mais également des mécanismes de concurrence vers les énergies décarbonées se mettent en œuvre. Et il y a de bonnes raisons de penser qu'en particulier compte tenu de l'engagement très très fort de la Chine, pour la Chine c'est une question de survie, la société chinoise et La forme d'organisation socio-économique chinoise va exploser si la qualité de l'air ne s'améliore pas. Donc les Chinois sont très engagés. Pascal Canfin citait des chiffres d'investissement concernant les énergies renouvelables. Il faut avoir à l'esprit que d'ores et déjà, un tiers de ces investissements chaque année sont faits en Chine. Donc tous ces éléments sont de nature à modifier le paysage. Les Européens, avec quelques difficultés, sont engagés également. En tout cas, nous sommes les pionniers. Les Américains, et il y a une course contre la montre interne aux États-Unis pour que l'accord soit ratifié avant les élections. Tout ça fait tout de même un bloc de pays très engagés, avec une masse d'investissements et puis un potentiel technologique très considérable qui pourrait modifier la donne.
Pascal Canfin, vous vouliez réagir sur cette question?
Oui, je voulais réagir sur le fait que la conception de la COP 21, effectivement, était différente des autres. Et il se trouve que je l'ai vécu de l'intérieur au gouvernement et j'ai largement contribué. On n'est pas parti du principe que c'est le politique qui allait tirer la technologie et l'économie.
Contrairement à Copenhague.
Contrairement aux autres COP, où tout le monde regardait les leaders du monde et disait « mais bougez-vous ». On a fait le contraire. On a dit « on va créer les conditions économiques, on va montrer qu'on a beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre ». Que c'est une des conditions du développement demain de la Chine, des pays africains, de l'Inde, que de lutter contre le développement climatique, et non pas l'inverse. Et une fois qu'on aura créé ce cadre intellectuel, cette représentation, cet imaginaire, à ce moment-là, le politique pourra prendre ses responsabilités. Et donc, on a conçu l'accord politique comme, non pas comme une cause qui allait déclencher le reste, mais comme une conséquence. Et ça, c'est important parce que souvent dans la vision française, particulièrement des choses où le politique reste dans notre imaginaire quelque chose de très volontariste, on va encore vivre une campagne présidentielle où tout deviendra possible et puis le lendemain, on s'aperçoit que ce ne serait pas possible. C'est que au fond, c'est parce que maintenant, technologiquement, c'est possible. C'est parce que économiquement, c'est possible que ça devient politiquement possible. Et ça renverse l'ordre des choses. C'est-à-dire que la COP 21 n'est pas la cause du changement, c'est la conséquence du changement. C'est parce que tout d'un coup, c'est possible que politiquement, ça devient acceptable de faire cet accord. Puis le deuxième élément, ça a été rappelé à l'instant, c'est la Chine. C'est que jusqu'à 2014... la Chine et les États-Unis se faisaient, je dirais, la guerre, c'est un peu abusif, mais disons, étaient dans le conflit sur le climat, avaient décidé de faire du climat un objet de conflit entre eux. L'exemple type était la fameuse conférence de Copenhague en 2009, où les Américains disaient aux Chinois « vous êtes les premiers émetteurs aujourd'hui et demain », les Chinois disaient « c'est vrai, mais hier c'était vous », chacun se renvoyant la balle. Ce qui s'est passé en novembre 2014, c'est l'accord politique entre Obama et Xi Jinping, donc entre les États-Unis et la Chine, pour dire « ok, on change totalement de paradigme, on arrête de considérer que c'est un sujet de conflit, ça devient un sujet de coopération ». Et évidemment, quand vous avez le premier émetteur, le deuxième émetteur de CO2, la première puissance économique mondiale, la deuxième puissance économique mondiale, qui disent « sur le climat, on va coopérer », ça change fondamentalement la donne. Et le changement politique majeur, géopolitique, il est en novembre 2014 et ça permet le succès politique à Paris en décembre 2015.
Anne Tézanas du Montcel.
Pour poursuivre, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a donc l'Inde dont vous avez parlé. Or, il se trouve, si on remonte un peu plus en amont, avant la COP 21, qu'en 2010, donc à Cancun, la COP qui est un peu la COP de la réparation après le traumatisme de Copenhague, le ministre de l'Environnement indien, Jairam Ramesh, prend une position tout à fait singulière contre les intérêts de son propre pays. Il m'a raconté ce moment qui a été vraiment une grande surprise. C'est-à-dire qu'il avait prévu avec ses négociateurs indiens un discours tout à fait classique de défense des positions indiennes. Il lit son texte et il décide de rajouter quelque chose d'autre. Et il décide de rajouter le fait d'accepter que tous les pays, donc tous, accepteront l'idée d'un cadre éventuellement contraignant pour donc et faisant ça, il laisse la porte ouverte au modèle qui va finir par donner le bourget. Quand il rentre en Inde, il est traité de tous les noms, de traître à sa patrie. Il écrit une lettre de 8 pages à son parlement en expliquant qu'il se devait, à ce moment-là, face au reste de l'humanité et aux pays qui souffraient, de changer de position. Donc, c'est intéressant parce que ça bouge aussi à l'intérieur de la COP. Il y a, en même temps, des hommes et des femmes qui, à un moment donné, peuvent prendre un risque politique pour faire bouger l'ensemble du navire.
Vous soulevez un point intéressant qui est celui de l'adaptabilité. Christophe Buffet, auteur d'une thèse sur l'adaptation au changement climatique, parle de cet impératif d'adaptabilité dans le cadre de la COP21. Et il pointe d'une part le décalage entre les engagements pris dans les COP et les financements effectifs, et d'autre part le décalage entre les mécanismes en cours et les besoins futurs. Est-ce que c'est l'un des problèmes majeurs qui empêche aujourd'hui certains États d'appliquer, de mettre en œuvre, de commencer à mettre en œuvre leurs engagements, Patrice Geoffron?
Oui, si on reprend l'idée que j'évoquais tout à l'heure, qui est que le modèle historique de création de richesses pendant l'ère industrielle est un modèle qui est basé sur l'utilisation massive des énergies fossiles, et si on a également à l'esprit qu'une partie du CO2 qui a été émis à la fin du 19e siècle, il est encore dans l'atmosphère, donc il concourt encore à l'effet de serre, on a une forme de responsabilité historique des pays les plus riches aujourd'hui, dont nous faisons partie, qui doit donner lieu à une forme de compensation. Un engagement a été pris il y a quelques années, ça avait été évoqué dès Copenhague, d'un transfert de financement des pays historiquement responsables vers les pays qui n'ont pas ce type de responsabilité. À nouveau, on peut citer l'Inde et l'Afrique, à hauteur de 100 milliards de dollars. Une des avancées dans le cadre de la COP21, c'est que certains pays qui n'ont pas ce type de responsabilité, c'est pour être le cas de la Chine, puissent concourir à ce financement. Alors, il y a évidemment d'énormes difficultés derrière ce financement, pas simplement la nécessité de lever ces 100 milliards, mais tout simplement la nécessité de s'entendre sur la manière de comptabiliser ces 100 milliards, de telle manière à ce qu'on n'ait pas une espèce de greenwashing ou de climate washing en transférant vers du financement climatique, en particulier pour l'adaptation, pour le développement des renouvelables ou d'efficacité énergétique, en particulier en Afrique, ne soit pas du détournement de fonds qui auparavant était dédié au développement. Donc il y a évidemment de très très grands enjeux, et ça renvoie à votre question initiale du consensus. Hein. Nous ne sommes pas tous égaux dans la responsabilité historique par rapport au changement climatique, hein, donc qui s'inscrit dans une histoire de deux siècles maintenant, et nous ne serons pas égaux non plus vis-à-vis des conséquences. Hein. La présence dans l'enceinte de la COP des États iliens qui vivent à peu près au niveau de la mer, doit être entendue, et on a là un facteur d'inégalité. Si on considère dans le cas de l'Europe la situation des Pays-Bas, on sait que le niveau moyen des Pays-Bas se situe sous le niveau de la mer, environ à un mètre, mais les Néerlandais ont déjà naturellement déterminé les crédits qui seront nécessaires à l'évolution de leur digue, et on peut même imaginer que ça puisse concourir à l'augmentation du PIB pour un pays comme les Pays-Bas. Ce ne sera pas le cas, à l'évidence, pour tous les États iliens, dont certains sont très probablement condamnés à disparaître.
Alors, pour poursuivre sur cette notion de consensus, et pour en arriver à cette notion qu'on évoquait depuis le début de l'émission de contrainte, Anne Tézénas Dumoncel, vous venez de parler de l'Inde qui inscrivait, sans même que ce soit écrit à l'avance, cette notion de contrainte, d'obligation à respecter un engagement. On voit que dans les textes, dans les protocoles qui ont été signés auparavant, cette obligation à se tenir à ces engagements n'est pas vraiment au centre des textes. Le protocole de Kyoto, par exemple, les États-Unis n'y ont pas adhéré. Le Canada s'est désengagé en cours de route. La Russie, le Japon et la Nouvelle-Zélande n'adhèrent pas non plus, ne participent pas à la deuxième phase. Est-ce qu'un accord sur le climat, la COP21 non plus n'impose pas justement de contraintes à respecter l'engagement. Est-ce que un accord sur le climat doit être plus coercitif pour que ce soit viable, Pascal Canfin?
En théorie, oui, bien évidemment. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis le premier à regretter que les États ne sont pas prêts à faire sur le climat ce qu'ils ont fait sur le commerce, avec un accord de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et un tribunal qui s'appelle l'ORD, beaucoup moins connu du grand public, mais qui est le juge dédié du respect de l'accord commercial de libre-échange. Ce qui fait que des États qui mettraient des politiques non conformes aux règles de l'OMC peuvent se faire attaquer, sanctionner. Malheureusement, au moment où on parle, aucun État, et quand je dis aucun État, c'est aucun État, y compris les nôtres, européens, avant-gardistes sur le climat, n'est prêt à adopter ce même modèle par rapport au climat. Ce sera peut-être vrai dans 10 ans, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Malgré l'urgence qui se présente déjà dans les
discours
politiques.
Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis évidemment le premier à le regretter. Maintenant, il faut relativiser la question de la contrainte. Parce que comme je le disais au début, tous les grands changements de l'histoire de l'humanité ne se sont pas faits par la contrainte. On n'a pas inventé Internet par la contrainte, on n'est pas allé sur la Lune par la contrainte, etc. Donc, la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de contrainte, des acteurs sont en train d'avancer plus vite ? Bien, la réponse est oui. Alors, on va reprendre l'exemple de la Chine. Pourquoi ? Parce qu'on a le. Je pense que les auditeurs pensent que c'est l'Europe, évidemment, qui est le leader en la matière. Et puis, les Chinois, les Américains sont derrière. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça a été dit et rappelé tout à l'heure, depuis l'année dernière, le pays qui investit le plus dans les renouvelables, c'est la Chine. Le pays qui est en avance de 4 ans. Sur ses engagements internationaux, même non contraignants, sur ses engagements internationaux, sur la baisse de la part du charbon dans sa production d'électricité, c'est la Chine. C'est-à-dire que la Chine va plus vite, elle ne va pas encore assez vite, mais elle va beaucoup plus vite que ce à quoi elle s'était engagée, même de manière non contraignante. Donc ça prouve bien que le vrai sujet, c'est pas est-ce que je suis contraint de faire ça parce qu'il y aurait un tribunal, je ne sais où, qui va me juger, mais c'est juste est-ce que c'est mon intérêt d'y aller. Et c'est évidemment l'intérêt de la Chine aujourd'hui d'engager pour de vrai ce qu'ils appellent le virage de la civilisation écologique. C'est inscrit dans leur plan quinquennal. Pourquoi ? Parce que ça a été rappelé. Le premier motif d'insatisfaction des Chinois et notamment des classes moyennes urbaines, et tout régime politique ne tient que s'il a le soutien de ces classes moyennes urbaines, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a des milliers d'années, c'est le premier motif d'insatisfaction, c'est la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Et donc, si le régime chinois ne change pas radicalement là-dessus, eh bien, il y a un vrai risque d'instabilité politique et de menace sur ce que le Parti communiste chinois appelle l'harmonie, c'est-à-dire son maintien au pouvoir. Et donc, évidemment, c'est devenu non plus simplement un sujet environnemental, mais un sujet de stabilité politique. Et donc, les choses changent bien plus vite que ce qui était envisagé il y a encore quelques années.
Anne-Thézénas Dumoncel, est-ce que vous avez observé, quand vous avez suivi la préparation de cette COP21, que certains États, comme pouvait le dire Pascal Canfin, étaient tentés d'avancer plus vite du fait de cette absence de contraintes ?
Moi, je pense surtout que dans l'accord, il y a une dynamique qui est posée avec cette idée que tous les 5 ans, il va y avoir une fameuse revue de ces engagements qui ne peuvent être qu'à la hausse. Donc,
certaines ONG disent que c'est trop tard déjà, 5 ans.
Oui, mais il va y avoir un premier point en 2018, donc c'est beaucoup plus proche.
C'est une des décisions de la COP22 à Marrakech dans quelques mois, c'est d'acter le fait que dès 2018, on fait cette révision pour aller plus vite que ce qui a été décidé à Paris.
Exactement. Donc l'idée, je crois vraiment, c'est de créer une dynamique. Et au fond, on est peut-être plus dans quelque chose qui ressemblerait à du name and shame qu'à la notion de contrainte et de tribunal, même s'il y a beaucoup de réflexions autour d'une gouvernance internationale sur le sujet.
Patrice Geoffron, vous faites allusion à ce name and shame que vient de nommer Anne-Thézénas Dumoncel. Ça veut dire montrer du doigt les pays qui se soumettent pas, qui font cavalier seul, qui se soumettent pas en pratique à l'accord qu'ils ont ratifié. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? C'est la bonne manière.
En tout cas, on avait épuisé d'autres manières de procéder. Gardons bien à l'esprit que le protocole Kyoto, par exemple, n'avait pas été ratifié par les États-Unis. Et donc, lorsque parmi les plus gros émetteurs, on a la Chine, on a les États-Unis, si on regarde par habitant, on a l'Arabie Saoudite ou on a la Russie, il est très difficile de toute façon d'imaginer un processus coercitif dans lequel... Il est bien question de géopolitique, à un moment on tord le bras de l'un ou l'autre de ces grands émetteurs. Donc on ne peut créer ce qui revient dans notre discussion depuis le début que les conditions à la fois d'une coopération ou d'une concurrence sur les technologies bas carbone, ce qui est d'ailleurs un sujet de préoccupation pour les Européens, parce qu'à partir du moment où à nouveau les Chinois, les Américains par ailleurs, pas simplement dans les renouvelables, mais dans les technologies de l'information qui vont être associées à ces grandes transformations, qui vont être riches en données, en big data, pour les Européens qui ont été les pionniers de la définition d'une politique en 2007-2008 avec le paquet énergie-climat. Nous avons été les premiers à très clairement indiquer qu'en 2050, les émissions de gaz à effet de serre devront avoir été réduites de 80%. Donc nous risquons finalement, dans cette concurrence qui est en train de se dessiner, de nous retrouver plutôt fragmentés avec de petits pays, y compris l'Allemagne. Si on regarde à nouveau les données relatives aux investissements en matière de renouvelables l'an dernier, on trouve naturellement de grandes entreprises chinoises, y compris désormais dans l'éolien. Hein. Jusqu'à une période assez récente, le leader mondial était une entreprise danoise. C'est désormais une entreprise chinoise. Et on va très probablement observer le même type de phénomène dans les véhicules électriques, dans les batteries, le stockage, qui vont être un élément essentiel de cette transition. Et puis sur le photovoltaïque, on sait d'ores et déjà, puisque la messe est dite et le leadership chinois a été acté, donc on sait bien ce qu'il en a été. Donc on a là une forme de basculement qui est d'un grand intérêt naturellement, puisque c'est ce qui peut permettre au moment des différentes phases de revoyure et à commencer par 2018 de prendre des engagements plus conséquents que ce qui aurait été fait à Paris. Mais ça doit conduire au niveau européen singulièrement à revisiter notre stratégie, parce qu'on risque d'avoir été les pionniers, mais de ne pas acquérir du leadership industriel dans le domaine des technologies bas carbone.
Oui, vous parlez dans vos articles notamment d'un hiatus entre les solutions souhaitables pour lutter contre le changement climatique et celles qui sont les plus efficaces pour tenir compte de ces objectifs. Donc là, pour l'instant, il y a un fossé un peu entre les deux. Anne Tézenas du Montcel, vous vouliez réagir.
Juste pour rappeler un point, un fait qui s'est déroulé à la COP21, l'accord a failli ne pas être adopté à cause d'un mot, d'un châle ou d'un should. Donc un châle qui était effectivement beaucoup plus contraignant dans la langue anglaise, mais qui n'était pas acceptable pour les États-Unis et qui a été par erreur remplacé, qui a remplacé un should plus
un
conditionnel.
Should de vrai.
Le should permettant à l'équipe de la Maison Blanche de faire avaliser l'accord. Et donc les mots, c'était pour vous dire à quel point l'immensité de la tâche de la COP, c'est d'arriver à bâtir un texte qui soit compatible avec les contraintes de chacun des pays. Et donc vraiment, ça s'est joué à très peu de choses, puisque c'était la dernière heure de la COP autour de ce mot.
Et du temps de la conjugaison, on passe au temps de l'action. Donc ce sujet, peut-on tenir une promesse écologique? Ça pose vraiment cette question de la temporalité, en fait, de la temporalité des exigences en termes environnementales qui ne rejoint pas toujours le temps politique, Pascal Canfin.
C'est pour ça que le titre de votre émission, je le trouve très intéressant, parce que c'est une bonne façon d'aborder la question. Peut-on tenir une promesse écologique? Et à quel moment peut-on évaluer le fait que cette promesse ait été tenue ou pas? Typiquement, sur l'accord de Paris, quand pourra-t-on dire que l'accord de Paris est vraiment un succès au sens où il a été transformé dans le réel? Pas avant 2020, c'est certain, et peut-être dans ses effets les plus lointains, puisque l'accord de Paris couvre tout le siècle, autour de 2050. Quel responsable politique qui a signé l'accord de Paris sera encore là en 2050 pour dire « Voyez, j'ai bien tenu mes promesses ». Évidemment, aucun. Donc, on voit bien que l'environnement et l'écologie posent forcément la question du temps long par rapport au temps court qui est celui des actionnaires, celui des transactions financières ou celui des mandats politiques. Donc, il faut qu'à un moment donné, le politique accepte de prendre une responsabilité qui dépasse très largement la durée de son mandat. Ce qui implique, pour qu'il puisse le faire, ce qui implique qu'un consensus, et vous avez plusieurs fois employé ce mot, soit suffisamment établi pour qu'il soit légitime. Parce qu'on pourrait très bien dire, mais attendez, en démocratie, au nom de quoi, sur un mandat de 5 ans, vous prenez des décisions qui vont nous engager dans les 50 prochaines années. Donc la seule façon de répondre, de sortir par le haut de cette question, tout en gardant le système démocratique, c'est de dire, parce qu'il y a un consensus suffisamment large, notamment des scientifiques, pour dire il faut aller dans cette direction. D'où l'importance du GIEC, donc ces fameux scientifiques du climat, qui ont eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, c'est parce que sans les scientifiques du climat, jamais nous n'aurions eu un succès politique à Paris. Pourquoi? Parce que jamais nous n'aurions eu les bases objectives, 10 ans, année après année, rapport après rapport, voilà où on en est de manière objective, indiscutable, à part par quelques scientifiques qui se sont auto-exclus de la communauté, qui racontent n'importe quoi et qui sont maintenant plus du tout écoutés. Donc ça, c'est très important, parce que c'est un élément de comment on procède pour créer du consensus qui permet une décision qui impacte sur du temps. Et le deuxième élément, encore une minute,
allez-y.
C'est, je crois aussi, de sortir de l'idée que c'est certes notre responsabilité d'agir, mais ce ne serait pas notre intérêt. Parce que le politique, pour prendre une décision, encore une fois, j'ai été député européen, j'ai été ministre, donc j'ai expérimenté le fait que c'est évidemment beaucoup plus facile de prendre une décision quand les gens quand la société, pour faire simple, l'opinion publique, considère que c'est notre intérêt d'aller dans cette direction. Bon. Or, pendant longtemps, on a posé la question climatique uniquement sous l'angle de la responsabilité. On a une dette écologique, il faut la payer, il faut payer pour le Sud, c'est notre responsabilité, on se flagelle, etc. Et évidemment, ce n'est pas très motivant, ce n'est pas très facile de prendre une décision comme ça. C'est beaucoup plus simple si on explique tout simplement qu'on vivra mieux, que c'est notre intérêt et qu'on va créer beaucoup plus d'emplois en y allant que le contraire, etc. Et c'est ça qui a été fait, notamment par la diplomatie française, mais pas seulement, par des think tanks, par des économistes, de montrer qu'il était parfaitement économiquement rationnel d'aller dans ce chemin, même si certaines entreprises ont particulières, les pétroliers par exemple, les charbonniers, font un lobbying extraordinaire, malheureusement, parce qu'elles-mêmes, à leur petit niveau, sont impactées négativement. Mais la société, l'économie dans son ensemble, a infiniment à y gagner. Donc quand on montre que c'est notre intérêt, c'est plus facile pour le politique de tenir ses promesses.
Anne Tézénès du Moncel sur cette question.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal Canfin, le patron d'Unilever explique très concrètement que l'ensemble de ces 550 filiales qui ont été revues en tenant compte justement du prix du carbone et de la transition énergétique ont trouvé dans les 3 ans une création de valeur qui était tout à fait intéressante. Donc c'est en multipliant ce genre d'exemple dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, qu'effectivement on comprendra qu'il y a un intérêt à faire.
Alors, il y a le mot responsabilité qui est ressorti de ce débat. On va lui faire un sort. On va se demander de quoi dépendent les volontés politiques. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Hakima El Aïté, qui est ministre déléguée chargée de l'environnement au Maroc. On va se tenir donc la COP22 en novembre. Et elle a participé aux précédentes COP et se pose la question de la mise en œuvre des accords de Paris et de la manière dont les entreprises, dont le secteur privé peut les y aider. Elle répond au téléphone à Meryl Moneghetti.
Il faut qu'on ait des stratégies qui nous mènent, qui nous posent sur des trajectoires qui vont nous amener à l'objectif et qui vont nous placer sur la décarbonation. Sans ça, on ne réussira pas. Et c'est ça ce que demande le secteur privé. Le secteur privé demande de la visibilité, demande à garantir, à sécuriser ses investissements. Ça ne sert à rien que moi, entrepreneurs viennent dans votre pays investir dans les énergies renouvelables si le pays continue à subventionner des énergies fossiles. Vous imaginez que je ne vais pas créer un marché qui est compétitif. Et donc, c'est au niveau des stratégies, au niveau des politiques, au niveau des régulations, au niveau des lois. D'ailleurs, en 2014, il y a eu plus d'investissements dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Ça veut dire qu'on est parti, que le secteur privé a compris et qu'il est en train d'innover et d'aller vers de l'innovation pour créer cette société sobre en carbone. Encore faut-il qu'au niveau des politiques, on puisse le suivre et on puisse lui faciliter la tâche pour aller plus vite.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Peut-on tenir une promesse écologique? C'est la question qu'on se pose ce soir avec Pascal Canfin, directeur général de WWF France, la journaliste au Parisien Anne Tézénès du Moncel qui a suivi les coulisses de la COP21 et l'économiste Patrice Geoffron. Donc, on vient d'entendre Hakima El Aïté, ministre déléguée chargée de l'environnement au Maroc, qui dit compter sur le secteur privé, sur les entreprises, pour mettre en œuvre les mesures écologiques actées dans l'accord de Paris. On a l'impression qu'en France, l'image du secteur privé, le rôle qu'ils peuvent jouer, n'est pas aussi valorisé pour le moment. Patrice Geoffron.
Alors, il l'a été en tout cas dans la stratégie de mise en scène de la COP21, hein, puisque, et ça a été rappelé, effectivement, les États étaient en première ligne. Mais la société civile, les entreprises et de multiples initiatives ont été valorisées dans le cadre de la COP. Par ailleurs, il faut se convaincre que les entreprises, y compris parmi les plus émettrices, ne sont pas monolithiques, hein, sont des organisations complexes et on trouve, y compris parmi les pétroliers, à la fois des initiatives, des stratégies de long terme. Toutes ces entreprises, d'ailleurs, les pétrolières, ne sont pas égales relativement aux stratégies de changement climatique. Une entreprise comme Total, par exemple, désormais a un modèle économique qui est beaucoup plus basé sur le gaz, pardon, que sur le pétrole, et le gaz étant très probablement une énergie fossile qui aura sa place dans la transition énergétique. Il y a un autre élément qui, lui, n'a pas été évoqué, qui me semble-t-il doit avoir place dans notre discussion, c'est la manière dont les banques et de manière générale les institutions financières doivent prendre en compte le risque climatique à long terme. Lorsque vous êtes un fonds de pension et lorsque vous avez à l'horizon de 30, 40 ou 50 ans à servir des pensions de retraite à vos mandants, vous êtes bien dans l'obligation de prendre en compte ce que sera l'état du monde et l'état des risques à cet horizon. Donc l'effet de levier via l'évaluation financière, via le conditionnement de certains financements et plus globalement, disons, l'évaluation des entreprises et le rating qui leur est donné en prenant en compte le risque climatique, peut être également un facteur de changement.
Pascal Canfin, pardon, je vous voyais sourire quand Patrice Geoffron évoquait le rôle des banques et des institutions financières. À la précédente COP21, certaines ONG ont beaucoup critiqué le fait que certaines entreprises qui produisaient des énergies fossiles étaient présentes et même très présentes au Bourget. Est-ce que vous pensez que les ONG devraient être plus présentes que les entreprises
Alors, moi, sincèrement, je vous fais une réponse à la fois à titre personnel au regard de mon parcours divers et varié, mais aussi en tant que directeur général du WWF en France. Qui peut penser qu'on fera la transition, pour de vrai, sans les entreprises ? Qui va produire les biens et les services décarbonés ? Bon, si les entreprises ne les produisent pas, qui va les produire ? Personne. Donc, on a évidemment besoin des entreprises pour le faire. Maintenant, c'est évident qu'on fera aussi la transition contre certaines entreprises qui ne veulent pas bouger. Je donne souvent l'exemple des diligences. Quand on a inventé la voiture individuelle au début du siècle précédent, au 19e, 20e siècle, il y avait des fabricants de diligences. Bon, mais ces fabricants de diligences, ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent à partir des années 1890, et puis après, ils ont disparu. Donc, il y a de la transition qui va évidemment détruire des entreprises, celles qui ne se seront pas adaptées, pour reprendre le mot que vous évoquiez tout à l'heure. Mais c'est la fonction des entreprises, c'est leur mission quelque part de s'adapter à l'évolution des marchés et des enjeux sociétaux. Donc il y a certaines entreprises, un des cas les plus connus c'est ExxonMobil qui a été un très grand pourvoyeur de financement de lobby anti-lutte contre le dérèglement climatique. Mais ce que j'ai vraiment constaté depuis plusieurs mois, 18 mois, 24 mois, c'est une vraie prise de conscience dans le monde de l'entreprise et de la finance, pour aller dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, selon laquelle un monde à 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés de réchauffement climatique, qui est le monde que les scientifiques nous promettent si on ne fait rien, c'est un monde où la prospérité n'existe plus. Et donc, les business models, la rentabilité pour l'actionnaire, ça n'existe plus non plus. Et donc, finalement, c'est aussi leur intérêt, là encore une fois, on y revient, c'est aussi leur intérêt d'agir et pas simplement leur responsabilité d'image, morale, etc. Et c'est ce que nous, au WWF, on fait comme pari. Et on engage les entreprises, on travaille avec elles, on dialogue avec elles et on les pousse pour qu'elles définissent des trajectoires de développement compatibles avec un monde qui limite le dérèglement climatique à 2 degrés. Et on a aujourd'hui dans le monde plus de 120 entreprises qui ont d'ores et déjà dit « Ok, je m'engage à regarder ce que voudrait dire pour moi un monde qui limite le dérèglement climatique à 2 degrés. » Ça veut dire quoi en termes de technologie, en termes de mix énergétique, en termes de chaîne de valeur, en termes de recherche et développement? Ça veut dire quoi? Et c'est exactement ça dont on a besoin. Et le rôle de la société civile, en tout cas tel que nous on le conçoit, c'est à la fois de pointer, d'alerter, de critiquer quand c'est nécessaire, évidemment, mais c'est aussi d'accompagner dans le bon sens pour que cette évolution se fasse.
Anne Tézenas du Moncel, à la COP21, il y a eu quelques critiques sur certaines entreprises qui étaient là aux côtés des États et qui, comme je le disais à Pascal Canfin, étaient supposées créer pas mal d'énergie fossile dans le même temps. Est-ce que, pour vous, les ONG devraient avoir plus de place que ces entreprises-là? Est-ce qu'on devrait mieux choisir les entreprises?
Je crois que les places sont différentes. Et il y a un mot très important dans le processus de la COP qui est le mot « inclusif ». Et je crois que les entreprises sont les leviers d'action, comme les villes, pour cette transformation. Ce qui me paraît très important, moi, comme évolution, c'est que avant, le climat, l'environnement pouvait être éventuellement une question de responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises. Et là, ce dont Pascal Canfin parle, c'est du business model. Donc c'est du cœur de l'activité de l'entreprise qu'il se joue. Quand on entend Henri de Castres, patron d'AXA, dire que le monde va devenir inassurable, il parle de son cœur de métier. Donc le monde de l'assurance est en train d'inventer un nouveau business model dans un cadre nouveau. Eh bien, il n'y a pas un secteur d'activité qui n'ait pas à mener cette réflexion aujourd'hui.
Dans votre livre, Anne-Thézénas Dumoncel, Voyage dans l'Anthropocène, disponible chez Actes Sud, vous dites que les COP sont une révolution à l'ère de l'Anthropocène et il s'agit de dessiner autre chose que le chaos ambiant. Il s'agit de redessiner un projet politique tout en notant que certaines COP ont été des échecs politiques. Je pense à Copenhague en 2009. Est-ce qu'une promesse écologique doit venir d'autres choses, d'un autre terrain que le seul politique? Est-ce que la société civile doit plus s'emparer, par exemple, des questions écologiques?
Mais je crois que déjà, dans le processus des COP, la société civile est présente, puisqu'on est dans le monde...
Est-ce qu'elle l'est assez?
Elle est présente. Il y a les fameux 9 piliers de la société. Elle a son rôle à jouer. Ils sont là. Ces acteurs-là sont présents. C'est à eux de prendre peut-être plus de place, s'ils veulent prendre plus de place. Mais ils sont là, dans le cadre actuel.
La société civile, la question de la société civile, de l'implication de la société civile dans ces prises d'engagement, dans ces promesses écologiques, Pascal Canfin.
Je pense que c'est le problème est moins au moment des négociations onusiennes elles-mêmes où objectivement les grandes ONG internationales sont présentes. Tous les micros de tous les médias du monde se tendent vers WWF, Greenpeace, Oxfam et quelques autres pour dire qu'est-ce que vous pensez d'eux. Bon. Et on est dans les groupes de travail, etc. Donc c'est un processus ouvert et ça pourrait toujours s'améliorer, mais sincèrement, beaucoup de choses ont déjà été faites. En revanche, là où la société civile a beaucoup à faire en plus, c'est dans les pays. Là où, dans certains pays, elle n'existe pas, tout simplement parce que le cadre démocratique n'existait pas. D'ailleurs, la société civile chinoise aujourd'hui, organisée, c'est compliqué. Donc ça passe beaucoup, non moins par les organisations telles que nous on les connaît, mais directement par les réseaux sociaux. Ce qui, en Chine, fait aujourd'hui bouger les choses, c'est la mobilisation quasi spontanée sur les réseaux sociaux. Et donc, là, il faut évidemment penser la mobilisation et les contre-pouvoirs en matière de transition énergétique, de lutte contre le dérèglement climatique, en matière d'écologie, de manière générale, à l'heure du numérique. Ne plus simplement le penser, c'est un défi.
C'est déjà un peu le cas.
C'est déjà le cas, bien évidemment. C'est pas assez. Et quand on parle de société civile, il n'y a pas que les grandes organisations ONG, il y a aussi le pouvoir des consommateurs. Chacun, là où il est, a la possibilité d'agir. Si on lui dit tout seul, vous avez toutes les clés, évidemment non, mais vous avez, les auditeurs qui nous écoutent, ont chacun une part de responsabilité, que chacun s'en saisisse.
Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Merci à vous trois, Patrice Geoffron, Anne-Thézénas Dumoncel, Pascal Canfin. Je rappelle les références de votre livre, Anne-Thézénas Dumoncel, Voyage dans l'Anthropocène, disponible chez Actes Sud. On peut aussi indiquer votre livre, Pascal Canfin, paru aux éditions des Petits Matins, Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Toutes ces références, d'autres encore, sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été où vous pourrez réécouter, podcaster cette émission, laisser vos commentaires. Merci à la précieuse équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblond, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation. Et ce soir, à la prise de son, c'était Nicolas Dalmas.